source.
What? Vas-y, stop. Ah. Métro. Pique ton cœur, Caroline.
Suite et fin de notre série de 4 épisodes du mois d'octobre sur la sorcellerie Limousine. Il est dorénavant temps, à quelques jours de la période de la fête celte de Samhain, de parler de la magie noire et des créatures de la nuit. Commençons par la sorcellerie humaine. Elle se divise en deux types. La magie émanant de personnes non ordinaires, les sorciers à proprement parler donc, et les mauvais sorts lancés par des habitants n'ayant pourtant pas de réelles aptitudes.
Je me rappelle qu'il y avait une famille et que toutes leurs bêtes sont mortes, leurs vaches, leur cochon. Alors un beau jour, le monsieur s'est décidé, ils sont allés voir la devineuse, Madame Flora. Et elle leur a dit, vous savez, il y a votre plus près voisin, il vous a ensorcelé. Alors vous n'aurez qu'à regarder dans votre étable, le soir quand vous êtes parti au lit, ces gens vont déposer des œufs. Alors vous chercherez à tel endroit, vous en trouverez sous le fumier. Alors, ils ont trouvé ces œufs, il y en avait un ou deux, j'en sais rien, et vous les mettrez dans une chaussette ou les mettrez dans la cheminée pour les faire sécher. Et depuis ce jour-là, ça a été fini, toutes leurs bêtes, ça a repris et tout. Et le gars, je ne sais pas si ça les a désensorcelés, mais à partir de ce jour-là, ils n'ont plus de malheur dans leurs étables.
Vous l'aurez compris, avec cet extrait, nous allons débuter avec la seconde catégorie. Elle est du fait de quelqu'un de proche, pas d'un illustre inconnu et qui nous veut du mal. Mais pourquoi donc? Le mobile le plus souvent utilisé est la jalousie. Ces apprentis sorciers ne peuvent pas directement utiliser leur pouvoir. Il leur faut pour cela un objet faisant le lien entre lui et la victime. Ça peut être tout et n'importe quoi. Comme dans l'extrait, un bouquet, des œufs, ou alors des animaux morts, des parties d'animaux comme de la couenne de porc, des fétiches ou même juste de l'herbe coupée. Bref, tout objet suspect étant à un endroit où il n'a pas l'habitude d'être. Une fois ensorcelé, il faut toujours l'aide d'une personne tierce pour éliminer le mal. La méthode la plus courante est de brûler l'objet maudit. Cette catégorie de sorciers est considérée comme la plus commune par la population, ce qui conduit à des mises en cause perpétuelles. Et ce n'est pas tout à fait à tort. En effet, de peur du crime de sang ou de la confrontation, le fait d'envoyer un sort permet à l'agresseur de se venger sans pour autant se salir les mains. De même, pour la victime, dire qu'on a reçu un sort permet de se dédouaner ou d'attaquer justement un autre voisin en lui donnant une mauvaise réputation. La magie noire ne serait en réalité qu'une forme de lâcheté, à l'inverse de la magie blanche qui est plus un soutien moral dans l'adversité. Mais cette magie punitive conduit à une certaine psychose.
Robert Morange, vétérinaire, confronté depuis de nombreuses années à la sorcellerie.
Ces phénomènes ésotériques n'existent que chez certains de nos clients.
Ils vous rejettent, ces clients?
Ces clients nous rejettent, ah oui, il y en a carrément qui nous rejettent. C'est le vétérinaire qui jette un sort parce que c'est le vétérinaire qui profite. Bon, alors de là à dire que c'est nous qui jetons le sort pour qu'on puisse, si vous voulez, profiter de la situation, il n'y a qu'un pas.
Passons maintenant à la seconde catégorie, les véritables sorciers à proprement parler. Ces femmes ou ces hommes sont souvent à l'origine des mages, c'est-à-dire des sorciers qui sont capables de soigner. Mais connaissant la recette du mal et étant eux aussi humains, usent parfois de leur pouvoir pour faire le mal. Comme le sorcier Vosange du plateau de Millevaches qui avait pour habitude de soigner et d'user de maléfices pour se défendre. La réputation de Vosange, dit Nouné, s'étend jusque dans les départements voisins. De toutes parts, on vient le consulter. L'imagination populaire lui prête des pouvoirs occultes extraordinaires. On affirme que, braconnant un matin, il fut surpris par les gendarmes qui se mirent à ses trousses. et comme il allait être pris, il se retourna. On ne sait pas par quel prodige les gendarmes aussitôt s'arrêtèrent net, comme pétrifiés. Mais ce n'est pas tout. Le sorcier s'assit sur un tertre, leva la main et les gendarmes se prirent à danser, tournant sur eux-mêmes, entraînés malgré eux en un mouvement de valse folle. Vos anges, après les avoir considérés un moment, se leva, remonta sur la cime voilée de nuées, et vers le soir seulement, il redescendit pour les délivrer. Éperdus, haletants, les gendarmes s'en allèrent. Ils atteignirent Bujat avec beaucoup de peine. Plus jamais ils ne cherchèrent noise au sorcier.
Cette jeune femme a 22 ans. Elle tient un commerce avec son mari. Depuis 3 ans, elle a rompu tout contact avec sa mère.
Et je suis partie à mes 18 ans de chez moi. Et en partant, elle m'a dit « Tout ce que tu entreprendras, tu ne le réussiras pas. »
Comment elle peut faire pour ça?
Elle a un don pour exercer avec une photo. Elle travaille sur cette photo et puis elle souhaite du mal à la personne.
On revient maintenant avec ce témoignage sur la psychose. L'anormal conduit à une peur panique. Et il suffit d'un contexte un peu tendu pour croire qu'on est la victime d'un maléfice. Malfaisance, lâcheté et incrédulité des gens sont les ingrédients de la magie noire. Si on pense que des gens nous ont fait ça, c'est qu'on a déjà pensé à le faire. Et même s'il ne s'agit que de peur irrationnelle, ça n'en reste pas moins de la peur. Et infliger de la peur pour nuire, c'est de la violence morale. Pour terminer ce sujet des mages noirs et faire une bonne transition avec notre seconde partie, je vous propose un dernier extrait des articles de Gaston Villiers montrant bien cette ambivalence de certains mages. Pour rappel, le rôle d'un meneur de loups est d'éviter les attaques de troupeaux, mais celui-ci aurait fait l'inverse pour se venger. On dit que vous le gouvernez à votre guise, dit-il en s'adressant au sorcier. Pourtant, je sais qu'en votre présence, le loup dévorera un jour une brebis. C'est bien que vous n'y pouviez guère. Oui, dit l'homme, c'est vrai. Un soir, j'étais là-bas, vers le Doustre, avec ma pauvre défunte. Il faisait un temps noir, le vent soufflait. Le troupeau s'était écarté. La bête sortit du bois et se jeta sur la plus belle brebis. Je l'avais appelée. Le maître m'avait fait du mal. Je voulais me venger. venez d'écouter Salem Secrète, composé par Peter Gunry. On passe maintenant aux animaux fantastiques du Limousin. Débutons avec les monstres sauvages peuplant nos campagnes, avant de passer aux fées. La vouivre, c'est un dragon ou un serpent vivant dans les tourbières du plateau de Mille Vaches. Elle est généralement décrite comme un monstre ailé qui porte une pierrerie au front, ce qui attise la convoitise de bien des hommes. Elle était appelée la Malbeste. Le plus souvent, cette créature était chargée de garder un trésor souterrain. Puis, venus d'Auvergne, deux monstres affreux faisaient parfois le passage. Ils s'appelaient Bigorne et Chichefasse. La Chichefasse est décrite comme un animal maigre, avec des yeux gros comme des corbeilles et ardents comme des tisons. Bigorne, quant à lui, a l'apparence d'un tigre gros et gras. Chichefasse mange les femmes qui obéissent à leur mari, tandis que Bigorne mange les hommes trop dociles. Ainsi, pour se débarrasser des deux bêtes, chacun doit se montrer fier et rebelle à l'égard de l'autre. Pour vous en prémunir, brisez la paix de votre ménage. Il est intéressant de noter que ces créatures correspondent bien aux caractéristiques de la région. En effet, les tourbières se trouvent au milieu de marais peuplés de reptiles et où il est facile de se perdre. Pas étonnant donc qu'un dragon y cache un trésor. Cette terre était aussi peuplée de personnes rudes et fières, ayant une vie plus que compliquée. On sait encore aujourd'hui que le plateau a toujours eu une attitude contestataire. Et là encore, rien d'étonnant à ce que ceux qui n'ont pas ces qualités ne puissent y vivre sans se faire manger. Si vous êtes des cavaliers aussi, méfiez-vous du cheval mâlet. C'est un animal maléfique du nord-ouest de la région Limousin. C'est un grand cheval, pâle, aux yeux lumineux, scellé et bridé. Il apparaît le soir ou la nuit sur les routes. Si un voyageur croise son chemin et l'enfourche, l'animal prend le galop et chevauche toute la nuit à travers le pays. Lorsque le matin approche, il jette sa victime dans un précipice ou dans un cours d'eau, ou alors le désarçonne et le piétine à mort. Viennent ensuite les bêtes dérivées du loup, comme les garaches, qui sont des loups-garous femelles, se transformant la nuit pour expier un crime. Il en existe deux sortes, les garaches à sauter, qui franchissent les garaches à percer, qui traversent les buissons. Pour retrouver leur forme originelle, les garaches doivent être blessées, au risque de mourir. Il y a aussi la ganipote, ou galipote, qui est une créature maléfique présente dans tout l'ouest de la région. C'est aussi un loup-garou qui hante les campagnes lors des nuits sans lune et rôde autour des maisons jusqu'au petit matin. Elle tue ses victimes en leur sautant sur le dos pour les étouffer et prend parfois une apparence inoffensive pour attirer dans son piège des petits enfants. Là encore, ces monstres sont inspirés du seul animal en concurrence avec l'homme et que ce dernier craint le plus, le loup. Toute disparition non élucidée est mise sur son compte. Et pour terminer, connaissez-vous les fées ? Commençons des plus gentilles aux plus diaboliques, voulez-vous. Les fées les plus sympathiques sont sans nul doute les fades. Elles aident les bergers à retrouver l'agneau égaré et procurent la plante guérisseuse à la mère en larmes. Ce sont les bonnes fées auvergnates et de la montagne limousine qui demeurent dans les forêts et les rochers. On ne compte plus les trous aux fades, les pierres et les grottes qui portent leur nom, comme les pierres fades entre Saint-Marc à Loubeau et la Noaille en Creuse. Elles sont vêtues de voiles blancs et dansent dans les clairières autour des pierres dressées, sans que leurs pas ne brisent la moindre brindille, sans que leur musique ne fasse fuir les animaux sauvages. De jeunes et belles, elles se font vieilles, allant par trois dessous la lune près de grottes. Elles sont pourvues du pouvoir de prédire l'avenir à qui croise alors leur chemin. Dans la Creuse, les vapeurs aperçues au-dessus du château de Las Fadas, formation rocheuse, signifieraient que ces fées sont occupées à leur lessive. Après les fades viennent les fanettes, un peuple de fées qui vivraient dans des grottes éloignées des hommes. Le soir, elles quittent leurs abris pour se rendre dans les fermes et y commettre tout plein de petits méfaits préjudiciables aux paysans, tels que renverser la vaisselle, s'emparer d'objets ou les cacher, gâter la succulente soupe mijotant dans l'âtre. Certaines de ces petites fées vont jusqu'à maltraiter les animaux de la ferme. Pour s'en prémunir, il vaut mieux garder dans les tables du sel et de l'eau bénite. Ces fées sont dans le fond juste espiègles et pas réellement dangereuses. Elles ne rêvent que de liberté et voient dans la pratique des hommes de cultiver le sol et d'élever d'autres animaux une forme d'asservissement de la nature. Mais ces fées ont des cousines, bien plus malfaisantes. Ce sont les Martes, Mars ou Martine. Rien à voir physiquement avec les petites fanettes. Ce sont des fées laides et malfaisantes, de grandes femmes maigres, aux longs cheveux noirs et à la peau tannée. Les noms des sites comme les pierres jaumates de Toussainte-Croix en Creuse, ou encore la maison Marthe de Cromac en Haute-Vienne, sont à ce qu'on dit les derniers témoignages de leur existence. On les connaît surtout par leurs incessantes attaques sur les paysans. les obligeant à téter leurs longues mamelles qu'elles portent habituellement par-dessus les épaules. C'est l'un des pires fléaux de nos campagnes. Les fées et créatures maléfiques sortent particulièrement pour la nuit de Belten, du 1er mai, et de Samhain, du 31 octobre au 1er novembre. Moment particulier où le temps et l'espace, le monde visible des vivants et le monde invisible des disparus, communiquent ensemble. Samhain étant en plus le début de l'année druidique. C'est la fin de l'été, mais aussi le retour de l'âme des trépassés sur Terre, ainsi que le début de la saison sombre. Dire que Halloween est importé des États-Unis est donc partiellement faux. Samhain était célébré sur toutes les terres celtes, puis, avec l'occupation romaine, elle s'est restreinte aux îles britanniques, puis, essentiellement, à l'Irlande. Enfin, la christianisation a fini de faire disparaître cette célébration sur nos terres. Sans compter que le 1er novembre, nous fêtons tous les saints, morts en martyrs, et que le 2, nous fêtons nos morts à nous, les fidèles défunts. Or, dans nos sociétés occidentales, il est mal vu de bien vivre la mort. Faire la fête pour un enterrement est impensable. Il y a une certaine exagération du sentiment de deuil, avec des démonstrations parfois hystériques, des pleurs, des évanouissements, qui traduisent en fait un rejet de la mort, un refus de la disparition de l'autre. La mort perd sa familiarité. Et depuis la fin du XVIIIe siècle, nous procédons à la vénération des cimetières et à un culte des tombeaux. À la Toussaint, on va au cimetière pour pleurer les disparus et nettoyer leur dernière demeure. Voilà pourquoi Halloween n'arrive pas à reprendre racine dans une France qui a été longtemps catholique, première fille de l'Église, disait-on, et qui, en plus, bien qu'elle s'en inspire souvent, rejette le modèle américain. Ainsi, Halloween est une fête commerciale indécente, ne respectant pas cette période de deuil et de respect. Mais d'un autre côté, le Black Friday, ce jour où on casse les prix, est bizarrement le bienvenu. Voilà, cette série de 4 épisodes sur la sorcellerie limousine est terminée. Nous nous sommes plus intéressés à la localisation, l'inventaire et l'histoire de ces mythes et avons plus ou moins laissé de côté ces raisons. C'est un autre sujet et s'il vous intéresse, je vous encourage à effectuer vos recherches et à me les partager par mail à martin@radiobassivière.com. Si ça vous intéresse, je vous propose de regarder en entier le reportage Sortilège Envoûtement en Limousin, divisé en 4 parties sur le site de l'INA. Ces reportages ont été réalisés en 1980 par les journalistes Gérard Vaziega, Marc Wilmart et Gilles Arizoli. Ce document est issu de l'émission Vivre en Limousin, proposée à l'époque par France 3 Limoges. Je vous propose aussi de lire les ouvrages Magie, Sorcellerie et Guérissage en Limousin de l'ethnologue Maurice Robert, et surtout Sorcellerie et Culte des Fontaines en Limousin de 1899 et 1901. De Gaston Vullier, artiste et journaliste au journal Le Tour du Monde, ayant vécu à Gimel-les-Cascades à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ces articles ont été réédités par l'édition Bayade avec une œuvre de Marie-France Houdard, L'eau, le diable, les saints, retour aux sources, qui est lui aussi, je trouve, indispensable. Voilà, bonne recherche à vous et à la prochaine!
On prend le rap à la source. Ah. Métro.